Gloire à Dieu. On va continuer notre étude sur le guide de prière. On est encore sur la section de prier pour nos besoins, mais prier pas prier pour nos besoins, prier pour notre croissance personnelle, notre croissance spirituelle, parce qu'on veut grandir dans le Seigneur, on va apprendre, on veut vivre des choses avec le Seigneur, puis quand tu vis des choses comme des exaucements de prière, ça bénit, ça fortifie, ça encourage. Mais quand on prie pour des besoins spécifiques pour notre croissance, puis là, on est exaucé, mais en plus d'être encouragé parce qu'on est exaucé, on est encouragé parce que Dieu nous fortifie dans ces besoins-là qu'on prie. Ce soir, on va voir le sujet de prier pour les besoins de tout genre. Dans cela, le Seigneur veut nous apprendre à ce qu'on dépende entièrement de lui. D'aller voir dans les idées qu'on va développer. C'est sûr qu'il y a des versets qui reviennent tout le temps parce que c'est les versets clés pour la prière, mais on va parler aussi de prier pour nos besoins en particulier. La promesse de Dieu de pourvoir à nos besoins englobe toutes les choses qui sont nécessaires à notre vie. Tout ce qui est nécessaire à notre vie. Les vêtements, la nourriture, d'avoir un emploi, un toit sur la tête. Aujourd'hui, ici, dans notre monde, si on a besoin d'un véhicule, Dieu peut pourvoir un véhicule. Tu penses à quelque chose que tu as besoin, payer ton compte d'hydro, mais pense à mettre ça en prière pour le Seigneur. N'importe quoi qui est nécessaire dans notre vie courante. C'est sûr que les besoins ont changé depuis 2000 ans. Là, 2000 ans, il n'y avait pas autant de besoins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est obligatoire d'avoir une maison avec des fenêtres isolées, puis tout le kit, puis le chauffage. C'est obligatoire. On vit au Québec, on vit ce qu'il y a de la neige, puis il fait froid, puis on peut plus chauffer au bois, faut que tu chauffes l'électricité, donc c'est normal d'avoir un compte d'électricité, puis si tu as de la misère à le payer, mais Dieu pourvoit. Dieu peut pourvoir, peut répondre aux besoins. C'est avec confiance que nous pouvons demander selon nos besoins, puis mettre notre foi en Dieu qu'il pourvoira. Parce qu'on va voir dans des versets que Dieu, il a toujours pourvu pour ses enfants, pour ses disciples, pour son peuple. Quand c'était avec l'histoire du peuple d'Israël, c'était la même chose. Il a toujours pourvu. Des fois, c'est à la dernière minute. Mais Dieu, quand tu le pries, tu l'invoques, tu lui demandes quelque chose, il répond. Dieu il a promis qu'il serait le pourvoyeur pour ses disciples. Puis ça, c'est écrit dans plusieurs versets, mais dans Philippiens 4:19, ça nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu veut pourvoir. Ce qui arrive, c'est que des fois, si on n'a pas ce qu'on a besoin, c'est peut-être parce qu'on n'a pas demandé. Parce que, on va le voir dans les prochains versets, il y a une idée là-dessus qu'il faut développer, c'est le réflexe de s'accrocher à Dieu. Quand le Pierre a été mis en prison, qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils priaient. C'est que là, il y avait un besoin, il y avait une situation. Il était pris en prison, il était pour se faire assassiner, puis le peuple, les disciples, ils sont en prière, puis ils intercédaient, puis ils priaient, puis ils ont prié jusqu'à temps que ça cogne à la porte. Puis là, ils ont dit, c'est qui est à la porte? Puis là, la servante, elle rouvre le hublot, puis elle a vu Pierre. Puis au lieu d'y ouvrir la porte, elle est allée dire, hey, c'est Pierre qui est à la porte. Il dit, t'es folle. Il croyait pas nécessairement. Oui. Ils ont dit, ils l'ont traité de folle. Ils croyaient pas qu'elle était... Oui, ils ont dit quelque chose qu'ils sont pas supposés de dire. Parce qu'ils ont pas cru sur le coup que c'était Pierre, que Pierre était libéré. Mais ils priaient. Ils priaient avec foi, mais sans s'attendre qu'il pourrait apparaître. Puis il serait là à la porte. Mais le point que nous, je veux qu'on réfléchisse là-dessus, pardon, parce que faut développer l'esprit de prière. Prier sans cesse, tu viens pas au monde comme ça. Ça se développe. Arriver à rentrer, comme ça nous dit dans la parole, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret. Prendre des moments d'intimité avec Dieu avant de commencer ta journée, c'est le meilleur moment. Si tu peux te lever un peu d'avance, puis prendre un café avec le Seigneur, puis tu parles au Seigneur, tu es tout seul avec. C'est des bons moments. Il faut développer cela. Tu viens pas au monde comme ça. Puis quand on est chrétien, des fois, on a une vie de prière un peu décousue. On prend un petit bout de site, on prend un petit bout de là. Des journées, on oublie complètement de prier. Mais ça, c'est pas mature. C'est pas une vie mature. Une vie mature, c'est comme Jésus. C'est qu'on prend au sérieux qu'il faut prier. Puis il faut prier. Il faut, c'est pas... La prière, c'est comme respirer. On pourrait s'empêcher de respirer. On peut pas s'empêcher de respirer. C'est la même chose. On devra pas s'arrêter de prier en tant que chrétien. Mais faut le développer. Puis Dieu, il est ouvert à exaucer nos prières. C'est ça qui est le point. Puis il faut crier à lui dans tous nos besoins. C'est ça qui est le point. Mais on est tellement habitué que l'argent rentre seul, puis les soins sont là tout le temps, puis on a toujours tout au point qu'on prie même pas pour le demander. Puis ça, c'est un danger. Des pays pauvres, ils ont plus d'avantages de rien avoir, puis toujours être en train de demander au Seigneur pour obtenir, puis là, ils voient la main de Dieu plus souvent que nous, parce que nous, on n'est pas habitués à prier. Trop. Dieu, hein? Puis ça, la pourriture, c'est dangereux. Dieu connaît nos besoins avant qu'on lui demande. Puis ça, êtes-vous surpris de cela? Dieu connaît nos besoins avant qu'on lui demande, sauf qu'il a quand même voulu qu'on lui demande. Même s'il sait qu'on avait besoin de telle et telle chose, il a fait le plan de façon à ce qu'on s'accroche à lui pour lui demander, même s'il sait. Dans Hébreux 4:16, on l'a vu la dernière étude, c'est un verset-là, on l'a vu souvent. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ce verset-là, je vous l'ai répété souvent. Le savez-vous par cœur? Non? Donc, il faut que je vous le répète encore une couple de fois. On devrait le savoir par cœur. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu veut nous secourir dans nos besoins. Puis quand c'est un secours, c'est parce que ça presse. Nous secourir d'un besoin, c'est pas juste exaucer. « Oh, j'aimerais ça avoir un plus gros char ou un plus beau char. » C'est pas ça d'un besoin. Un besoin, c'est des choses pressantes, des choses qu'on a réellement de besoin. Puis Dieu, il est prêt à nous secourir si on s'approche du trône de grâce pour demander miséricorde, d'avoir que Dieu ait pitié de nous, puis il nous l'accorde. Puis Dieu, il va le faire. Parce qu'il a dit qu'il pourvoira à tous vos besoins. Même si c'est un sujet aussi simple que d'avoir de quoi manger, il nous demande de le demander. Dans Matthieu, au chapitre 6, le verset 11, ça dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Y a-tu plus basique que ça de demander même ce que tu dois manger? Nous, on s'habitue pas encore, on remercie, par exemple, j'espère que tout le monde le fait, de remercier que Dieu a pourvu. Mais on devrait être quand même en train de demander qu'il demande, même si on le sait que la bouffe, il y en a toujours qui rentrent dans le frigidaire à toutes les semaines. On en a toujours parce qu'on est habitué que les chèques rentrent. Mais le problème, il est peut-être là, qu'on se fie trop sur nos chèques. Que ce soit l'idée que j'apporte, là, c'est mettons-nous notre confiance dans notre chèque de pension, notre chèque de chômeur, notre chèque de bien-être, ou dans le chèque qu'on a à notre emploi, où on met notre confiance dans le Seigneur qui pourvoit. Parce qu'on néglige tellement de demander à Dieu en premier qu'on ne demande pas, on va travailler comme par réflexe, puis l'argent rentre, puis on se casse pas la tête de demander. Mais savez-vous qu'un jour, ça pourrait arriver qu'il n'y en ait plus? Il arriverait une crise, là, quelque chose de grave, mettons, une guerre nucléaire, il y a une couple de bombes qui pètent, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, tu n'as plus de job. Il n'y aura plus de pain brun ou pain blanc moelleux. Il n'y aura plus, là, à partir du moment que ça peut arriver dans une journée qu'il n'y ait plus rien. Puis si on n'a pas appris à se fier sur Dieu, puis on s'est toujours fié sur le chèque que le gouvernement nous envoie, on va crier famine, puis on va pleurer, on va être débalancé, on va être déstabilisé, il y en a ceux qui vont finir par abandonner même leur foi, parce que ça sera trop grave, ça arrive. On n'a pas appris à bâtir notre foi sur Dieu. Le monde, dans le temps de Jésus, là, il travaillait la journée même, là, pour la bouffe de cette journée-là. Puis t'as pas besoin d'être si loin que d'en parler dans le temps de Jésus. Même encore aujourd'hui, là, il y a des pays qui c'est comme ça. Au Mexique, si tu travailles cette journée-là, tu manges. Si tu travailles pas, tu manges pas. Je n'ai rencontré des Mexicains, puis c'était ça leur vie. Le gars, il gagnait 2 piastres par jour. Puis la nourriture est le même prix qu'ici. T'achètes un pain, c'est le même prix. T'achètes des running, c'est le même prix. Il gagnait 2 piastres par jour. Puis il vivait dans une cour de... Il travaillait dans une cour de scrap, mais il vivait dans la cour de scrap. Il couchait, lui, sa femme, ses 4 enfants, dans les autos de la cour de scrap. C'est un chrétien. Puis tous les soirs, il y avait des réunions, puis il venait louer le Seigneur, puis il mettait de l'argent dans le tronc, dans l'offrande. Il mettait pas un gros montant, mais il mettait son nécessaire, tout ce qu'il avait pour vivre. Puis il priait le Seigneur, puis il louait le Seigneur de tout son cœur. Tout ça, là, c'était un exemple de vie, là, ce gars-là, pour moi, même si c'était un pauvre, c'était un homme de foi, puis il louait le Seigneur, il donnait dans le tronc, puis il gagnait 2 piastres par jour, puis la nourriture coûte le même prix qu'ici. Il mangeait pas de mets chinois, puis il mangeait pas ce qu'on mange, nous autres, à semaine longue. Eux autres, c'est des tortillas, c'est des galettes, là, puis des fricolais, c'est des bines. Ils mangent ça 3 fois par jour, 7 jours par semaine, à l'année longue. Nous autres, on n'a pas connu ça, mais il y a des chrétiens présentement qui connaissent ça. Puis lui, il prie pour que Dieu pourvoie. Puis Dieu, il pourvoie avec son travail à ce montant-là, puis il loue Dieu, il glorifie Dieu. C'est un exemple. Puis ça, il faut... je pense qu'il faut prendre exemple de ce monde-là. Là, je vous le raconte, mais c'est pas un mensonge, c'est je l'ai vu de mes yeux personnels. C'est pas une histoire racontée pour essayer de vous attrister. C'est vraiment comme ça dans certains pays. Fait qu'il faut apprendre à se confier en Dieu, à remercier Dieu pour nos affaires qu'on a. Ça, c'est, je suis 100% d'accord. Mais même si le chèque rentre automatiquement, prenons l'habitude, comme dans la prière du Notre Père, de demander à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Puis fions-nous à ce que c'est Dieu qui a répondu à notre prière, puis qui nous donne tout ce qu'on a. On va rendre gloire à Dieu tout le temps. Serions-nous aussi confiants en Dieu si nous étions obligés de faire comme le prophète Élie? Le prophète Élie, dans 1 Roi, le chapitre 17, les versets 1 à 4, il est allé voir le roi Achab, puis Achab, il était un rebelle à la parole de l'Éternel, puis sa femme était plus que rebelle, elle était idolâtre, puis elle faisait des temples de Baal, puis d'Astarté, partout dans le peuple d'Israël. Puis lui, le prophète Élie, est allé voir le roi Achab, puis il a dit qu'une parole de l'Éternel qui tombera plus de pluie sur le peuple d'Israël, jusqu'à temps que lui leur prononce encore une parole pour que la pluie revienne. Puis dans l'histoire, on voit qu'il a été 3 ans et demi sans mouiller en Israël. Puis quand c'est arrivé, Dieu a dit à Élie, tu vas aller au torrent de Kirit. C'est ça qu'on va regarder dans 1 Roi 17, les versets 1 à 4. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Puis là, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. C'est Dieu qui a dit à Élie quoi faire. Là, il a dit, pars d'ici, Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Dans l'histoire, Élie est resté là jusqu'à temps que le torrent y est devenu sec et il n'y avait plus d'eau. Ça a duré combien de temps? 6 mois? 1 an? 2 ans? Tout ce temps-là, il a vécu par la foi. Il a écouté la parole de l'Éternel. Il a été, puis c'est un corbeau, une corneille, qui amenait de la viande à tous les jours. Je ne sais pas si vous le savez, c'est vraiment de dépendre de Dieu. Tu sais, dire, Dieu va pourvoir à ma nourriture. Il m'a dit de rester là, de ne pas bouger, puis de manger ce que le corbeau va m'amener. T'espères-tu que le corbeau, il se trompe pas de chemin? T'espères-tu qu'il t'en emmène suffisamment? Puis il t'emmène, t'espères-tu qu'il t'amène de quoi qui va être mangeable? Parce qu'un corbeau, là, les corneilles, les corbeaux, c'est des charognards. Ça mange les animaux morts. C'est sûr qu'ils n'étaient pas des animaux vivants. Mais le point qui est mentionné là, c'est Dieu lui a dit à Élie, tu t'en vas là, puis tu vas manger ça. Puis pendant tout le temps qu'il était resté là, Dieu lui donna de la nourriture. Apprendre à dépendre de Dieu pour tes besoins. Ça peut aller jusqu'à cela. On parle souvent, on en parle de temps en temps, qu'il va y avoir un jour un contrôle mondial, il va y avoir la marque de la bête, il va y avoir toutes sortes d'affaires, puis on ne pourra plus acheter ni vendre si on n'a pas la marque, puis tous les chrétiens n'accepteront pas, mais supposer là, que les chrétiens n'accepteront pas la marque de la bête, puis ils ne pourront plus acheter ni vendre. Puis là, il va falloir apprendre à dépendre de Dieu pour notre survie. Puis si on n'apprend pas là, je pense qu'on va avoir des surprises, mais qu'on arrive à ce moment-là, si on n'a pas appris à dépendre de Dieu, on va avoir de la misère. Il faut apprendre maintenant à croire que Dieu a promis de pourvoir à nos besoins. Quand il arrive quelque chose, premier réflexe, il faut demander à Dieu de pourvoir, de demander à Dieu qu'il nous aide. Oui, tu peux être, on l'a vu à propos de la maladie la dernière fois. T'es malade, oui, on pourrait aller voir les médecins tout de suite, mais il faut quand même le dire au Seigneur, n'en parler au Seigneur, puis demander au Seigneur le secours. Dieu peut répondre par cela, par les médecins, comme qu'il peut répondre par une prière exaucée instantanément. Mais il faut demander à Dieu en premier, faire confiance à Dieu. C'est la même chose aussi au niveau... qu'est-ce qui en serait de nos pensées face à un événement comme l'entrée du peuple juif dans le désert? Il était près d'un million de personnes. Ils s'en vont dans le désert. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans le désert, il n'y a pas grand-chose à chasser. Il n'y a pas grand-chose à se nourrir. C'est le désert. Il fait chaud, on suffoque. Le soleil est fort, il n'y a même pas de végétation, il n'y a rien. C'est le désert. Puis il s'en allait dans le désert, puis il y avait 1 million de personnes. Puis il fallait de quoi manger pour nourrir ce groupe-là. Il arrive sur le bord de ce. Dans Exode, chapitre 16, les versets 1 à 4. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim puis arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et contre Aaron. Ça, le murmurer, c'est critiquer, chialer, se plaindre. Là, ils se sont plaints. Qu'à faire, vous nous avez emmenés ici, blablabla. On était bien mieux en Égypte. Les enfants d'Israël leur disent, que ne nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Là, en voulant dire, moi, la phrase en français, je dis, pourquoi faire qu'on n'est pas morts par la main de l'Éternel? Ça serait plus facile de l'écrire en mes mots. Mais ils se plaignaient, puis ça aurait été préférable. Eux autres préféraient de mourir que de ne pas avoir rien à manger. Puis là, ils avaient peur puis d'en manquer. Puis là, il dit, pourquoi faire qu'on n'est pas mort dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim toute cette multitude. Là, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira puis en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. » Le peuple s'est plaint, puis Dieu a répondu. Bon, il faut pas se plaindre. Ça, c'est pas l'exemple à suivre. Mais ça peut arriver qu'on vive des moments comme cela, où ce qu'on arrive, où ce qu'il n'y a rien à manger, rien pour pourvoir à certains besoins nécessaires. Bon, on pourra commencer à se plaindre puis dire qu'on était mieux avant, mais c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut croire plutôt que Dieu est capable de faire arriver de la nourriture où ce qu'il n'y en a pas. Hey, il y avait 5000 personnes devant Jésus, puis ça faisait 3 jours qu'il était là. Puis là, il dit, je suis pas pour les envoyer à jeun. Ils vont défaillir en chemin en s'en allant. C'est ça que Jésus a dit. Il est pas pour les laisser aller 3 jours, puis les laisser aller après 3 jours sans manger. Il dit, qu'est-ce qu'on a ici? Il y en a un qui arrive avec 5 pains, 2 poissons. Amène-moi ça ici. Il a fait la multiplication, il a nourri, tout le monde avait le ventre plein, puis il en restait. Mais Dieu, il est capable de faire de la nourriture où il n'y en a pas. Il est capable de faire des miracles. Il les a déjà fait, ces miracles-là. Puis pourquoi vous pensez qu'on a ça par écrit dans la Bible? Pour nous enseigner, pour que ça nous donne des exemples de croire. On peut croire que Dieu peut faire cela. Il faut apprendre à croire en Dieu, puis à dépendre de Dieu, puis à demander au Seigneur selon nos besoins. Il nous le dit tout le long, approchez-vous pour être secourus dans vos besoins. Jésus nous enseigne dans sa parole qu'un chrétien ne doit pas s'inquiéter. Il y a un amen à cela.
Amen.
Un chrétien ne doit pas s'inquiéter. Dieu, il sait que ça prend ça. Il sait, puis il ne nous laissera pas mourir de faim. On peut mourir persécuté, on peut mourir de bien des manières, mais pas de faim. Dieu y a pourvu tout le temps pour la nourriture. Mais il dit de chercher son royaume, prier, puis lui faire confiance. On retrouve ça partout dans la Bible. Dans Matthieu 6, 25 à 33, je vous l'ai déjà lu, mais je vais vous le relire parce que c'est un bon passage. Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Ça veut dire, ça arrivera pas que vous mourriez de faim. Vous allez pouvoir manger du gazon, manger des feuilles, manger n'importe quoi, mais on mourra pas de faim. Tiens, amen. Amen sur le fait que Dieu est capable de pourvoir à tout ce qu'on a besoin, puis il nous dit de ne pas s'inquiéter pour la nourriture. Il dit de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va manger, ni pour notre corps de quoi qu'on va être vêtu. Ça veut dire qu'on va toujours avoir de quoi à se mettre sur le dos. La preuve, tu regardes les 2 témoins dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'ils ont sur le dos? Les 2 témoins dans l'Apocalypse. Ça nous parle de 2 témoins qui vont prophétiser dans le temps de la marque de la bête, puis qui vont prophétiser dans le nom de l'Éternel, puis la puissance de Dieu va être sur eux. Puis ça nous dit qu'ils vont être revêtus de sacs. Ah, mais Dieu dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez être vêtus, mais dans les pires scénarios, vous allez au moins avoir un sac sur le dos. Amen. Il n'a jamais dit qu'on aurait des vêtements resplendissants en tout temps. Le dimanche, aujourd'hui, on peut en mettre, mais ça peut arriver qu'il y ait des périodes que tu auras juste une poche de jute sur le dos. ou comme Jean-Baptiste, un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir. C'est ça ton linge. C'est le plus que ça, c'est un extra. Mais il te dit, inquiète-toi pas, tu vas toujours avoir de quoi sur le dos. Parce qu'il ne permettra pas qu'on soit nu puis on a rien à se mettre sur le dos. On va toujours avoir de quoi pourvu par Dieu. La vie est-elle pas plus que la nourriture? Le fait de vivre, ça vaut pas plus que de juste manger? Puis le corps, il est pas plus que le vêtement? Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, puis votre Père céleste les nourrit. T'en vois-tu souvent des oiseaux mourir de faim? C'est parce que Dieu les nourrit, tout simplement. Ça peut arriver qu'il sert de nous pour les nourrir. On va mettre un bol, on va nourrir les oiseaux. Nous autres, on le fait chez nous. Mais c'est Dieu qui pourvoit aux moineaux. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Les enfants de Dieu n'ont-ils pas plus de valeur qu'un simple moineau? Si Dieu prend la peine de nourrir les moineaux, inquiétez-vous pas, Dieu va pourvoir ce qu'on ait toujours de quoi manger puis de quoi s'habiller. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Par nos inquiétudes, on ne rallonge pas notre vie. Au contraire, on la rapetisse. Parce que tes inquiétudes peuvent te rendre malade, puis tu peux en mourir. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement et d'y considérer comment les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent? Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, pas les chrétiens. Votre Père céleste sait que j'en avais besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, puis toutes ces choses vous seront données par-dessus. Même si Dieu nous dit qu'il va nous les donner, il nous demande quand même de les demander. Il l'a mis dans la prière du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que ce soit pour des besoins physiques, moraux ou spirituels, chassons nos inquiétudes et faisons connaître nos besoins, puis il nous donnera sa paix. C'est ça qui est important, qu'on demeure en paix, pas dans l'inquiétude, dans le tourment, des angoisses, puis capoter parce qu'on n'a pas ce qui notre extra. La vie, le fait de vivre, ça vaut plus que tout. Dieu sait qu'on a besoin pour vivre, puis il va pourvoir. Tant qu'on a à rester sur cette terre, on n'a pas besoin de s'inquiéter, il va nous donner ce qu'il nous faut. Puis si jamais on meurt, c'est parce qu'on est, notre temps était fini sur la terre. Mais tant qu'il y a encore de quoi faire avec nous, il va pourvoir. Mais il faut y faire confiance. Un dernier verset dans Philippiens 4, les versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce, puis la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.